je sais pas si vous avez déjà entendu parler d'une émission de télévision que j'ai, pour être franc, j'ai jamais vraiment écouté, mais j'ai compris le concept. On prend toujours un train. Hein? On semblerait que le concept de l'émission, c'est l'idée de qu'on arrive à des moments donnés où on a des passages obligés dans nos vies qui peuvent être difficiles. Et puis là, les gens qui sont rencontrés partagent ce qui leur est arrivé. J'avais cette pensée en tête où c'est vrai pour chaque personne. On a chacun d'entre nous des passages obligés dans nos vies où on arrive à un point et puis ce passage-là peut être un peu plus difficile. On en a tous vécu, que ce soit à un moment donné une première entrée d'école, que ce soit la journée de vos noces. C'est un passage obligé, là, positif, là, comprenez l'idée du... C'est le stress de la cérémonie que je fais référence, là. Quand vient le temps quand même de s'engager, il y a quand même un élément sérieux où est-ce qu'on s'engage pour la vie. Alors, il y a des passages comme ça qui nous sollicitent beaucoup. Peut-être qu'il y a eu des passages obligés que vous avez déjà vécu qui sont plus tristes, comme par exemple une funéraille où vous avez eu un proche qui est décédé. Il y a des circonstances dans nos vies où on a ces passages obligés, puis ces passages, des fois, font mal, dépendamment de la grandeur de l'épreuve comme telle, de la difficulté comme telle. Il y a des passages dans nos vies qui font mal. Ce matin, j'aimerais qu'on continue dans l'épître de Pierre de ce qu'on avait déjà commencé à regarder ensemble, et on est dans 1 Pierre 1. Pierre s'adresse à des gens qui sont dans une période où l'épreuve est croissante. Pour nous, aujourd'hui, les épreuves n'ont pas cessé. Malheureusement, les épreuves demeurent et sont encore là. D'un point de vue humain, on dit malheureusement. Mais Pierre semble avoir une autre perspective, un peu comme Jacques qu'on avait déjà vu, en ce qui concerne ces épreuves, ces passages obligés que l'on doit prendre. Et puis... Salomon, dans le passé, dans par exemple Ecclésiaste, regardait les gens souffrir puis il se disait comment ça se fait que le juste, lui aussi, il souffre. Job, il regardait sa propre vie. Comment ça se fait, Dieu, que je souffre? Comment ça se fait que je vis ces choses-là dans ma vie? Peut-être que vous êtes assis ce matin, puis ici, puis vous vous posez la question, comment ça se fait que je vis ça? Ou comment ça se fait? Pourquoi est-ce que j'ai vécu ça? Ce passage dans ma vie, ce temps difficile. Puis on peut se poser la question, pourquoi est-ce que les chrétiens souffrent? Est-ce qu'on ne devrait pas être immunisé contre ça une fois qu'on est devenu un enfant de Dieu? Il y aura toujours des épreuves qui vont venir à nous, même si on ne les veut pas. Et Pierre, ce qui est en train de nous vouloir nous encourager, Dieu, ce qui veut nous encourager, c'est de diriger nos pensées si on est dans l'épreuve pour avoir une bonne perception de ce qui se passe. Mais si on n'est pas dans l'épreuve, Pierre va nous diriger aussi pour se préparer à ça aussi. Parce qu'on aura ces passages dans nos vies qu'on va passer. Et quand on est en temps d'épreuve, notre impression souvent, c'est qu'on a perdu le contrôle. C'est qu'on ne contrôle plus ce qui se passe dans nos vies. Quand on vit un temps difficile, on a l'impression qu'on ne peut plus rien faire. Mais si on a ce sentiment qui est en nous, de perte de contrôle, on doit se rappeler une vérité importante. Et c'est cette vérité-là ce matin que j'aimerais qu'on retienne. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous croyez que Dieu est au contrôle? Amen. Et même quand que nous, on a cette impression, Dieu demeure au contrôle. Dans 1 Pierre, c'est ce qu'on va voir ce matin. Que Dieu est au contrôle de nos vies. Il est au contrôle de ce qui se passe dans nos vies. Puis on va voir qu'est-ce que Dieu veut nous conduire à travers ce texte de 1 Pierre qu'on va lire les versets. On va relire les versets 1 à 6, mais 6 à 9 particulièrement. J'aimerais qu'on prie avant qu'on se mette à lire. Seigneur, on vient devant toi pour te louer, pour t'adorer. Tu es un Dieu merveilleux et c'est un privilège pour nous que de pouvoir se réunir ce matin, que d'ouvrir ta parole et d'être enseigné par toi. Je te prie que tu puisses venir toucher nos cœurs, Peu importe, Seigneur, ce que l'on vit ce matin, tu as quelque chose à nous enseigner, tu as quelque chose à nous dire, et on veut se rendre sensible à toi. Viens toucher, Seigneur, nos vies et te révéler à nous. C'est en nom de ton Fils qu'on te prie ces choses. Amen. 1 Pierre 1, j'aimerais qu'on relise ensemble les versets 1 à 6. Et je dis bien relire parce qu'on les avait déjà lus il y a quelque temps. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Et il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Pierre vient d'énumérer là, une série de bénédictions que quand on prend le temps de s'arrêter, on finira jamais d'être capable d'évaluer la qualité et la quantité de ces bénédictions. Je pense que c'est pas pour rien que Pierre ait dit, finit le verset 2 en disant « Que la grâce et la paix vous soient multipliées. » On a la joie d'appartenir à Dieu. Ça, c'est le point de départ. Peut-être que vous êtes ici ce matin et vous posez cette question-là. Comment ça se fait que le chrétien vit des épreuves? Dieu est au contrôle. Puis il connaît les raisons de l'épreuve que tu passes. Dieu connaît la ou les raisons pour lesquelles tu vis une épreuve présentement. Puis Dieu est au contrôle de ça. Maintenant, c'est quoi une de ces raisons-là? Peut-être que nous, on les connaîtra jamais, ces raisons-là. Comme Job a demandé des réponses, puis il les a jamais obtenues. Mais il a obtenu une réponse bien précise, par exemple, que Dieu lui disait, « Fais-moi confiance, je suis souverain. » Mais maintenant, c'est quoi ces raisons-là? Si on a des belles vérités, des belles promesses, comme par exemple, Pierre il dit, « On a une espérance vivante, on a un héritage éternel. » On a un salut éternel qui est gardé dans les cieux, d'un héritage qui ne peut pas se corrompre, puis des récompenses qui sont finales. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous croyez que Dieu est merveilleux? Est-ce que vous croyez que Dieu est souverain? Est-ce que vous croyez que si Dieu vous a sauvé, qu'il vous a donné son salut éternel, qu'il vous a fait devenir des héritiers, qu'il vous a racheté, est-ce que vous croyez qu'il est au contrôle de vos vies? Est-ce que vous croyez que s'il vous a élu selon sa préscience, puis il vous a placé dans son plan, est-ce qu'il va nous échapper à quelque part maintenant? Non. Mais c'est vérité que l'on peut dire, oui, je crois ça. Mais le problème avec ça, c'est vous, qu'est-ce qui arrive? C'est la foi, c'est abstrait. C'est quoi la foi? Comment est-ce qu'on peut aller acheter ça au dépanneur? Ça se vend en caisse de combien, la foi? C'est quelque chose d'abstrait. C'est quelque chose qui est dans nos pensées, c'est quelque chose dans nos cœurs, puis on peut dire, ben oui, je crois ces choses-là, puis ces merveilleuses vérités-là, comme ce que Pierre vient d'énumérer, des merveilleuses vérités, comme il peut dire au verset 6, c'est là ce qui fait votre joie. Mais ce qui emmène que la foi devient concrète, c'est qu'elle est éprouvée. C'est qu'elle est mise à épreuve. Regardez le verset 6. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Dieu a fait tout ce qui était nécessaire pour qu'on puisse être sauvé. Dieu a fait tout ce qui était nécessaire pour qu'on puisse être dans son plan. Mais dans le plan de Dieu, ce qu'il a prévu, c'est que lui fait toute sa part nécessaire pour que ça fonctionne, mais Dieu nous laisse notre part aussi de vivre notre foi d'une façon concrète, d'exprimer et de répondre à ces vérités-là par la foi dans nos actions. quand j'arrive dans ce passage obligé dans ma vie, comment je réagis? Pierre, il dit, et je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est là ce qui fait votre joie au verset 6, « Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés par diverses épreuves. » Il y a plusieurs épreuves auxquelles on peut être éprouvé. Il y a diverses épreuves qu'on peut vivre. Mais maintenant, comment est-ce que nous, on va réagir à ça? Je crois qu'une des raisons que Dieu permet qu'on vive ces épreuves-là, c'est pour qu'on continue de lui faire confiance. Qu'on continue que cette foi et ces vérités qui sont dans nos cœurs, on les expérimente. Qu'on les mette en pratique. Qu'on les vive. Et que ça ne reste pas simplement sur un point de vue intellectuel où on a du plaisir à se rappeler ces choses-là. Mais quand on est dedans, qu'on les mette en pratique. Et ça, c'est la part de l'homme. Ça, c'est ma part. Et la rédemption que Dieu nous a donnée ne nous garantit pas l'immunité de l'épreuve. Et la raison que Dieu nous fait passer à travers certaines épreuves, des fois, ben c'est justement, puisqu'il le faut, que si nécessaire, Darby dit, si cela est nécessaire, c'est-à-dire que si elles ont une utilité dans la vie du croyant, et c'est Dieu qui l'en décide, puis Dieu utilise les problèmes que l'on peut vivre, les difficultés, les épreuves, pour nous rendre plus humbles, peut-être. Peut-être pour nous amener à se détacher des choses de ce monde pour attacher notre cœur aux choses qui sont en haut. Peut-être pour nous amener à apprécier des bénédictions que Dieu nous donne, même en temps d'épreuve, qu'on puisse les découvrir. Peut-être que Dieu veut nous apprendre ou nous rendre aptes à secourir un autre. Que Dieu va utiliser ce que je vis présentement pour que je puisse participer à la consolation aussi d'un autre. Peut-être que Dieu veut me corriger certains péchés dans ma vie. C'est une bonne raison. Ou peut-être pour aider à me forger un caractère spirituel. Tournez avec moi dans 1 Pierre 5. On va juste tourner quelques pages. 1 Pierre 5, 10. Les chrétiens tombent malades. Les chrétiens vivent des fois des mariages qui sont difficiles. Les chrétiens, des fois, ont des problèmes avec leurs enfants ou avec leurs parents. Les chrétiens ont des difficultés financières. Les enfants de Dieu vivent diverses épreuves qui nous attristent. Mais quelle est cette raison-là que Dieu veut faire? Certainement de répondre par la foi aux vérités que l'on connaît de Dieu, de faire confiance à Dieu. Hébreux, 1 Pierre 5, 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. C'est ce que Dieu veut faire dans nos vies. C'est la raison de pourquoi est-ce qu'on passe par certains passages obligés dans nos vies. Des temps difficiles, on en a vécu, il y en aura peut-être d'autres passages obligés que l'on aura. Quand que Job a été éprouvé, la vie à Job a ressemblé à quoi? C'est un homme qui avait une vie rangée, était marié, j'allais dire bien marié, là, mais l'histoire par après nous dit peut-être pas tout à fait ça. Là. Mais il était marié, il avait des enfants qui vivaient la joie. Et Job était un homme qui était fidèle à Dieu, qui aimait Dieu, qui louait Dieu et il n'y avait pas de... quand Satan est venu voir Dieu, Dieu a dit à Satan, « T'as-tu vu mon serviteur Job? Comment est-ce qu'il marche sur la terre? » Job avait une vie irréprochable, puis pourtant il a été éprouvé. Il y aura ces passages dans nos vies, si ce n'est pas présentement, pour l'avenir, des passages obligés qui seront peut-être difficiles. Mais maintenant, comment est-ce qu'on va réagir à ça? Par la foi, par la confiance. Dieu veut nous amener de cette première raison-là, nous amener à avoir découvert des belles vérités, mais maintenant à les mettre en pratique. Jean, il dit, 1 Jean 5, 4, je vais juste vous le citer, « La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. ce qui nous fait triompher du monde, c'est notre confiance en Dieu. Puis la foi, c'est quand vient le temps d'épreuve, puis que je suis dedans, comment je vais réagir par la foi? Comment je vais agir par la foi? Comment je vais continuer de faire confiance à Dieu? Je vais passer de la parole, de ce que je connais de la parole, aux actions. La mise en pratique concrète de ce que c'est. On a vu Jacques pendant plusieurs semaines avant de voir Pierre, et un des thèmes principaux de Jacques, c'est la foi authentique. C'est quoi la foi authentique? Je peux dire je crois en Dieu, mais est-ce que ça suffit de croire en Dieu puis de pas avoir une vie qui démontre ce que je crois? Mais Jacques, il dit, c'est une foi qui est morte, une foi qui est vide. Les épreuves nous emmènent à vivre concrètement ce que Dieu veut qu'on vive. Dieu connaît les raisons. Puis, regardez le verset 6, on revient dans 1 Pierre 1. C'est là ce qui fait votre joie. Notre joie est indépendante des circonstances. Comment ça se fait que Pierre dit ça? Puis Jacques, il dit aussi, voyez les diverses épreuves auxquelles vous êtes sujets comme un sujet de joie complète. Pierre, au moins, il réalise qu'on est attristé pendant un temps, mais il va quand même lui aussi dire qu'il y a de la joie. Notre joie est indépendante des circonstances. Parce qu'on ne va pas carburer notre joie en fonction de ce que l'on vit dans nos circonstances terrestres. Parce que si on se comportait de la sorte, on serait constamment soit très encouragé ou soit très déprimé, selon les circonstances, comment est-ce qu'elles vont. Mais un croyant, sa foi est placée en Dieu. Et est-ce que Dieu change? Dieu ne change pas. Dieu est immuable. Et ma joie que je trouve en Dieu, elle demeure. Même croissante, quand je continue de me confier en lui. Cette sorte de foi-là ou d'espérance vivante nous permet de se réjouir, même quand on est attristé. Puis Pierre, il dit, 1 Pierre 1, 6, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristé. Mais il complète quand même en disant, pour un peu de temps, par diverses épreuves. Ça dure un temps. Il faut se rappeler de cette espérance vivante que l'on a, que tout ne se termine pas dans l'épreuve, que ce n'est pas la fin. Maintenant, si Dieu est au contrôle, puis il contrôle les raisons pour lesquelles je suis dans l'épreuve, puis il les comprend, puis il les connaît, même si je ne les connais pas tous, mais je sais au moins que Dieu veut me faire passer de ma compréhension à l'action, mais Dieu est au contrôle, puis il a prévu des résultats dans ma vie par l'épreuve. Regardez avec moi le verset 7. « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Il y a trois domaines qu'on pourrait dire de diverses épreuves. Il y a des épreuves que l'on vit à cause du monde dans lequel on est. Les Écritures nous disent que la création souffre les douleurs de l'enfantement. Ça veut dire qu'il y a même dans la création, dans notre environnement, des difficultés auxquelles on est soumis, que ce soit des accidents, des maladies, de la mort, de la famine, des tempêtes. Dans le monde dans lequel on vit, on peut vivre ce type d'épreuve-là. On peut avoir un autre domaine, par exemple, où Dieu va permettre intentionnellement l'épreuve dans ma vie pour m'éduquer, pour enseigner le croyant, pour me faire découvrir des nouvelles choses. Par exemple, épurer ma foi, comme Pierre vient de dire, pour me rendre patient, que Jacques il va dire, pour me garder de l'orgueil, que Paul il va dire, pour me former pour un ministère, pour notre perfectionnement, notre sainteté. Dieu peut utiliser ça pour ma formation, pour nous former. Alors, il y a des épreuves dans notre monde. Il y a des épreuves que Dieu fait pour nous corriger, pour nous instruire. Puis, il y a d'autres épreuves qui sont attribuées aussi à un témoignage fidèle. On ne vit pas ça beaucoup au Québec. Le pire qu'on peut vivre, c'est si je témoigne sur mon milieu de travail, je peux faire rire de moi, je peux me faire moquer de moi. Mais il y a des endroits bien plus pires que ça, où il y a même des martyrs qui sont là à cause de leur foi. Peut-être que ça sera un jour notre lot. Peut-être qu'un jour, ça sera notre cas. Mais la moquerie, la solitude, l'incompréhension, les persécutions, l'emprisonnement, les privations de biens, puis même la mort qui sont données à cause d'un témoignage fidèle. Mais quel résultat est-ce que cela, ça peut provoquer chez le croyant? Je vais vous faire une citation. Exode 16:4 dit, « L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour après jour la quantité nécessaire. » Pourquoi Dieu a prévu ça comme ça? Dieu a dit, « Je vais faire pleuvoir du pain sur la terre. » Et puis, à chaque jour, vous allez en ramasser pour une journée. Mais il continue en disant, « Afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marche ou non dans ma loi. » Dieu a fait exprès de mettre son peuple comme ça à l'épreuve en disant, « Une journée à la fois. Je vais voir si tu vas me faire confiance pour demain. » C'est intéressant, Jésus nous a appris à prier de la même façon. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, notre pain pour aujourd'hui. C'est la même chose. Je fais confiance à Dieu aujourd'hui, mais souvent on s'inquiète pour demain. Elle est où notre foi ou notre confiance que chaque jour suffit sa peine que Dieu pourvoira pour demain? Mais Dieu veut créer un résultat dans nos vies par ses passages obligés. Mais je crois que le premier résultat que Dieu veut créer, c'est le perfectionnement de ma foi. Pierre est dit, on prend de l'or, et puis pour purifier l'or, on le fait fondre. Et une fois fondu, il y a les impuretés qui sortent, les scories. Ensuite de ça, on les enlève, et après ça, l'or est purifié. On a enlevé les cochonneries de dedans. Puis l'or, est-ce que ça a de la valeur? Mais absolument! Puis l'or, est-ce que ça dure longtemps? Mais absolument! Mais Pierre, ce qu'il va dire, c'est que l'or n'a rien à voir avec ta foi. Parce que de la même façon que Dieu, qu'on éprouve l'or pour enlever les choses mauvaises dedans, notre foi, elle est éprouvée aussi. Dieu place nos vies dans son creuset, là, puis et tranquillement, il le fait doucement, je crois qu'il ne le fait pas à la vitesse qu'on, des fois, on aurait besoin de l'avoir, puis tranquillement, il fait sortir les choses mauvaises qu'on a besoin d'enlever pour nous purifier, pour nous sanctifier, pour que notre foi soit grandissante, pour qu'on aille de pas en pas vers ce que Dieu veut de nos vies. Mais un deuxième résultat, c'est que cette épreuve-là authentifie une foi authentique. L'épreuve authentifie une foi authentique d'une profession superficielle. Des fois, on utilise l'histoire de Blondin. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Blondin? Hein? On utilise l'histoire de Blondin. Je vais vous la résumer en une minute pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est un homme qui... Je vais essayer une minute. C'est un homme qui a voulu, à un moment donné, traverser les chutes du Niagara en tendant un fil de fer et voulait traverser en marchant. Et avant de traverser, il a demandé aux gens, « Est-ce que vous croyez que je peux traverser? » Là, les gens, on pense que oui, là, mais vas-y, après ça, on va voir. Alors, Blondin, il va, il traverse, puis là, tout le monde est content, tout le monde applaudit. Et puis là, il demande à la foule de l'autre côté, « Est-ce que vous croyez que je peux traverser? » « Ben oui, on croit que tu peux traverser. » »« OK, ben maintenant, est-ce que vous croyez que je peux traverser avec quelqu'un sur mes épaules? » Wow, là, c'est quelque chose, là. Traverser le fil de fer avec quelqu'un sur ses épaules, « Oui, oui, on croit que tu peux le faire. » Fait que là, maintenant, qui vient avec moi? Il y avait beaucoup moins de volontaires que de gens qui applaudissaient. Puis quelqu'un s'est porté volontaire, puis a traversé sur les épaules de Blondin jusqu'à l'autre côté. Puis là, Blondin, le monde l'applaudissait, puis wow, tu sais, on croit que tu peux traverser le fil d'affaires, on croit que tu peux même mettre quelqu'un sur tes épaules. Et puis là, croyez-vous que je peux le refaire, là? Mais le monde croit que oui. Oui, on peut le refaire. Mais il n'y a pas plus de volontaires qui veut y aller. Mais celui qui croit, là, je fais le parallèle avec Dieu, celui qui croit ce que Dieu dit, bien, il est prêt un jour ou l'autre à dire « J'embarque sur tes épaules. » Puis oui, je crois que tu peux traverser le fil de fer, puis je fais pas juste applaudir. Puis oui, je crois que tu peux m'embarquer sur tes épaules puis me traverser l'autre côté. Puis oui, je vais embarquer sur tes épaules, je vais pas juste applaudir. Et cette histoire-là, on la raconte pour que vous puissiez, si vous n'êtes pas croyant, si vous n'avez pas placé votre foi en Jésus-Christ, puis que vous croyez que Dieu peut vous sauver, mais un jour ou l'autre, il va falloir que vous abandonniez votre vie à Christ. De pas simplement dire « oui, je crois ça », mais que vous donniez votre vie à Christ. Mais maintenant, ça se peut-tu qu'il y ait une application pour les croyants? Ça se peut-tu que des fois, nous autres aussi, on se fasse poser la question par Dieu « Crois-tu, David, que je peux te sortir de là? Crois-tu, David, que je peux traverser le fil? Crois-tu que je peux t'embarquer sur mes épaules puis te conduire? Puis je dois être plus que le spectateur sur le bord puis dire « Oui, je crois ça. » Mais il faut que je sois capable d'embarquer sur ses épaules, de m'abandonner à lui. Cette foi authentique, Dieu veut l'épurer. Dieu veut l'authentifier. Il veut créer ces résultats dans ma vie où et que c'est dur que d'arrêter d'applaudir puis de sauter sur ses épaules. Mais c'est ça que Dieu veut me faire faire. Et de fil en aiguille, ben Dieu me permet de faire croître ma foi. Et c'est les résultats qu'il crée dans nos vies. Qu'on lui fasse de plus en plus confiance, qu'on s'abandonne de plus en plus à lui. Qu'est-ce que tu vis présentement comme difficulté, comme épreuve? Est-ce que tu crois que Dieu est tout-puissant? Est-ce que tu crois que Dieu prend soin de toi aujourd'hui? Abandonne-toi à lui maintenant. C'est le résultat que Dieu veut créer dans ta vie. Abandonne-toi à lui. On va juste relire le verset 7. « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, l'or, là, on l'a purifiée, on a enlevé toutes les mauvaises choses dedans, et elle est précieuse. » Puis Pierre, il dit, c'est un point de vue éternel, là, c'est périssable. Puis si c'est périssable, ça vaut rien. Mais notre foi, par exemple, qui est éprouvée, puis que Dieu purifie, cette foi-là, elle est éternelle. Et cette confiance que l'on a, elle est éternelle. Et le verset 7, je vais finir de le lire, qui cependant est éprouvé par le feu, mais que cette foi-là est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Est-ce que vous y avez déjà pensé à ça? Le résultat de la foi que j'ai placée en Jésus-Christ, à partir du moment qu'il m'a sauvé, j'ai ce privilège de marcher avec Dieu, quelles que soient les circonstances. Puis David, il disait, « Quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, tu es avec moi. » Il traverse les vallées. Mais Dieu est là. Dieu prend soin de nous. Mais il faut que j'aie cette confiance-là, de goûter Dieu qu'il est près de moi. Mais Pierre, lui, quand il dit ça, là, es-tu vraiment au courant de ce qu'il dit? Oui, il est au courant. Puis s'il y avait un homme qui pouvait nous exhorter sur les épreuves, je pense que Pierre est un bon gars pour ça. Que notre joie soit présente, même malgré les circonstances. Pierre avait fait un bon bout de chemin à partir du moment où Jésus lui avait dit, c'était facile pourtant, Jean de peu de foi. C'est ça que Jésus avait dit à Pierre. À ses disciples, là, peu de foi. Peu de foi. Puis de fil en aiguille, bien, Pierre avance, puis même plus il avance, on dirait même que sa confiance en Dieu semble se tourner peut-être plus vers une confiance vers lui-même. Puis il réalise qu'au moment où il est confronté devant la difficulté, par exemple, de proclamer qu'il est un apôtre d'un disciple de Jésus-Christ, bien, il se recule, puis il dit non, je ne le connais pas. Quand vient le temps de la crucifixion, Pierre, il est où? Je ne sais pas. Mais il a peur. Oui, sa foi a été éprouvée, mais il a appris de quoi, par exemple? Puis quand on le voit dans les actes, Pierre, on voit que c'est son genre de peu de foi, il a compris qu'il y avait des pas à faire. Puis il a compris qu'il y avait des résultats que Dieu, que Jésus voulait créer dans sa vie, de dire, tu as un autre pas à faire. Tu as un autre pas à faire. Puis continue d'avancer. C'est ce que Pierre a dit, puis je ne résumerai pas ce discours que Jésus a eu avec Pierre sur le bord de la mer, quand il lui a dit « Est-ce que tu m'aimes? » Mais Jésus lui a fait comprendre ça. Acte 5, 41 dit « Les apôtres, ils continuent d'enseigner. Puis le Sanhédrin leur avait dit, on ne veut plus vous enseigner au nom de Jésus-Christ. Puis ils ont continué. Et Pierre et les apôtres ont été battus de verges. Et là, dans Actes 5, 41, ça dit, les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Avez-vous compris celle-là? Pierre était joyeux d'avoir été battu de verge à cause de Jésus-Christ. Puis pourtant, c'est un événement qui, humainement, est malheureux. Là. J'aimerais pas ça passer par là. Mais Pierre a été était heureux que d'avoir passé à travers ce passage obligé, cette épreuve, et il vivait la joie. Parce que sa joie n'était pas dépendante des circonstances, mais à cause de Christ. Et le texte nous dit, Pierre nous dit, ça va créer comme résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Est-ce que vous avez déjà pensé ou imaginé Dieu qui peut vous louanger? Dieu qui peut vous glorifier, vous honorer? C'est le résultat de notre marche fidèle avec lui sur la terre. Dieu veut nous communiquer cette appréciation-là au moment où il va revenir, au moment où il apparaîtra, où il se révélera à nous, je crois d'une façon dans son deuxième retour. Mais notre problème, quand on termine, puis là je termine ce... Le temps passe vite un matin. Je termine ce deuxième point-là, où les résultats que Dieu veut créer. Le problème, quand on est dans des épreuves, c'est qu'on a un danger d'échapper le résultat que Dieu veut créer dans ma vie. Parce que dans l'épreuve, ce qu'on veut faire, on a ce sentiment de perte de contrôle. Et ce qu'on veut faire, c'est rapidement trouver la porte de sortie la plus proche pour sortir de l'épreuve. Parce que c'est inconfortable. Et évidemment, si c'est du péché, la porte de sortie la plus proche, c'est confesser le péché, s'en sortir. Mais s'il y a des épreuves auxquelles on est soumis, il faut continuer de faire confiance à Dieu. Puis ces portes qui sont proches, qui semblent nous donner un accès facile, puis qui va soulager pendant un temps l'épreuve, c'est souvent du compromis. De compromettre ma marche avec Dieu, de compromettre mon couple, de compromettre ma réputation, de compromettre mon témoignage, de compromettre ce que Dieu veut accomplir dans ma vie, le résultat que Dieu veut faire dans ma vie. J'ai le choix entre un bol de soupe aujourd'hui ou le droit d'aînesse pour demain. Comprenez l'idée? Ésaü puis Jacob. Ésaü a troqué son droit d'aînesse pour un bol de soupe parce qu'il avait faim là. On doit se garder d'agir de la sorte. La façon dont je réagis dans l'épreuve va déterminer la rapidité des résultats que Dieu veut opérer aussi dans ma vie. On va conclure avec les versets 8 et 9. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Des fois, on compare les épreuves à des citrons. Il y a longtemps, j'avais déjà apporté des citrons. Les épreuves souvent ressemblent à des citrons. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un citron? Hein, mis à part que du zeste à quelque part, maintenant, pour faire beau. Il me semble qu'il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire avec des citrons à part du monsieur net. Mais ça se mange comment? Est-ce que vous avez déjà essayé de croquer d'un citron? C'est pas super, hein? Les épreuves semblent des fois ressembler à ces citrons. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, Dieu? Je comprends que tu connais la raison pourquoi j'ai ça dans ma vie. Je comprends que tu veux créer des résultats dans ma vie, mais il me semble que je connais pas la fin de tout cela. Puis on est peut-être d'une période où notre vie ressemble à un citronnier, où on a un citron, où on a ses difficultés, où on comprend pas. Mais Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Et puis il y a des récompenses associées aussi à traverser l'épreuve. C'est ce que Dieu vient de nous dire. L'épreuve, souvent, vient attaquer notre foi. Ce que Satan veut faire, ce que le malin veut faire dans nos vies, c'est remettre en question, t'es sûr que Dieu est au contrôle? Es-tu sûr que Dieu est puissant? Regarde ce qu'il a laissé venir dans ta vie. Hein? Es-tu sûr? Et là, le doute s'installe et la foi peut commencer à s'en aller tranquillement. Pierre, il dit, vous l'aimez sans l'avoir vu. Pierre a eu ce privilège que de le voir. Nous, on n'a pas le privilège que d'avoir marché avec Jésus. Puis je l'aime, même si je ne l'ai pas vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. On s'en abandonne nos vies à Jésus-Christ, même si on ne l'a pas vu. Mais on sait qu'il est là. On sait qu'il prend soin de nous. Vous savez, il y a une recette à faire avec des citrons. Je ne la ferai pas ce matin, là, parce que je n'ai pas le temps, mais vous savez qu'on peut faire de la limonade avec des citrons. Une batterie. Merci Michel, tu nous donneras la recette tantôt, mais je pense qu'on peut plugger des petites électrodes puis mettre une petite lumière. Ouais. Un demi-watt. Mais on peut faire une recette, peut-être qu'on peut faire de la limonade. Dieu veut créer ses récompenses dans nos vies, ou peut-être qu'on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on a ces citrons. Mais Dieu nous donne une recette de relation avec lui. Toute relation est fondée, toute relation profonde a besoin de confiance et d'amour. Je ne vois pas Dieu, mais je lui fais confiance. Je ne vois pas Dieu, mais je l'aime quand même. Et ça, c'est la recette nécessaire d'une relation intense avec Dieu. Vous pouvez l'appliquer dans votre couple, vous pouvez l'appliquer avec vos enfants, avec vos parents, avec vos amis. La confiance et l'amour, c'est ce que Dieu s'attend de nos vies. Et avec cette recette-là, Dieu permet de changer l'épreuve pour sa gloire, même en récompense. Puis on les connaît, cette récompense-là. Puis il y en a une récompense qui surpasse toutes les autres récompenses. Je vais juste relire le verset 8. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. Pourquoi? Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. La seconde 21 a bien traduit le mot obtenir ici, qui parle du présent. Parce qu'on obtient le salut de nos âmes. Il y a une joie. Puis même le mot ici, indescriptible. C'est littéralement, on aurait pu dire qu'on ne peut même pas exprimer. Pas juste qu'on ne peut pas la décrire. La joie que l'on a que d'avoir le salut de mon âme pour aujourd'hui, là. Comment est-ce que je peux exprimer ça? Je suis sauvé. Dieu a sauvé mon âme de la perdition. Voici la récompense qui alimente certainement cette joie. Et quand, oui, dans la vie, j'ai des citrons, Dieu me donne d'en faire de la limonade. Mais pour cela, il faut que je lui fasse confiance. Il faut que je fasse confiance à Dieu. On va arrêter là pour ce matin, mais pour que chacun d'entre nous, que ce que Dieu vient de nous dire puisse nous rappeler cette vérité-là importante. Dieu est au contrôle. Il connaît les raisons de nos difficultés. Il est au contrôle et il connaît les pourquoi, les comment, les quand. Et que notre foi se manifeste en action. Il crée en nous des résultats positifs dans nos vies. C'est ça le plan de Dieu pour nos vies. Il veut nous purifier de plus en plus. Et il nous conduit vers de merveilleuses récompenses. Et en commençant par aujourd'hui, si je suis un enfant de Dieu, le salut de mon âme. Quelle merveilleuse bénédiction. Seigneur, on vient devant toi pour te louer. Il n'y a rien qui t'échappe, Dieu. C'est toi le créateur de toutes choses. C'est toi qui es le roi. Tu es souverain. Et Dieu, tu nous as communiqué qui tu es. Tu nous as montré comment est-ce que tu agis avec nous. Tu nous as montré ta fidélité. Tu nous as montré que tu ne changes pas. Tu nous as montré que tu peux être notre refuge, notre forteresse, notre rocher. Et Dieu, à nous ce matin, on veut répondre nous aussi à ça. Oui, aussi, nous, on veut participer de notre part que tu nous laisses, de notre responsabilité, que d'embarquer sur tes épaules, comme à cette image de Blondin, Dieu, on veut pas être ces spectateurs qui vont applaudir puis dire oui, on croit ça, puis oui, on trouve que c'est beau et c'est bon, mais on veut les vivre. Dieu, tu connais notre faiblesse. Tu connais nos souffrances. Tu connais nos douleurs. Chacun d'entre nous, tu sais par quel passage obligé, peut-être qu'on est en train présentement de passer. On a besoin de tes mains sur nos vies. Peut-être qu'on n'a plus la force, la capacité, peut-être même plus le goût de se forcer. Viens toucher nos cœurs, Dieu. Tu dis que tu crées en nous le vouloir et le faire. Dans ces circonstances-là, on a besoin d'une double dose de ça, Dieu, parce qu'on se sent faible souvent. On veut continuer de te faire confiance, de s'abandonner entre tes mains. C'est dans le nom de ton Fils qu'on te prie ces choses. Amen.